Merci Xavier Besson. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel avec Arthur Ponchelet.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité et surtout la libre antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Ce sont vos coups de cœur, vos coups de gueule sur l'actualité de ces derniers jours. Et ce matin, vous êtes nombreux à nous appeler, à nous écrire de Guinée pour réagir à la libération d'Abdoul Sakho. Xavier Besson vous en parlait à l'instant dans son journal. Abdoul Sakho, l'une des voix les plus critiques de la transition en Guinée, il a été enlevé mercredi au petit matin à son domicile. Il a été retrouvé quelques heures plus tard, 24 heures plus tard, au sud-est de Conakry, retrouvé vivant, mais dans un état critique. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry, Ousmane, et vous disiez au Standard être soulagé.
Oui, je suis effectivement soulagé pour la libération d'Abdoul Sakho, mais les inquiétudes continuent parce qu'ici, il y a d'autres encore qui ont été kidnappés. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas leur destination, à savoir Fony Kemenge, Biloba et Habib Marwan. Tous ces gens ont été kidnappés, donc on ne sait pas leur destination. Donc actuellement, nous sommes toujours inquiets encore. Nous sommes soulagés parce que ici, si Abdoul Sakho a été libéré sain et sauf, nous pensons que les autres aussi doivent être libérés.
Sain, c'est vite dit, Ousmane. Hein. Vous avez entendu les avocats d'Abdoul Sakho, son entourage. Il a sauvagement été torturé par ses ravisseurs, torturé puis ensuite livré à lui-même, abandonné en pleine brousse. Ce sont d'ailleurs des agriculteurs qui l'ont retrouvé. Son corps porte des marques de coups, affirmait l'un de ses avocats, et il a perdu pour l'instant l'usage de ses deux bras. Il suit un traitement, il est dans une clinique, il est soigné, mais sain. Ousmane, malheureusement, il n'est pas sain. Il est dans un état critique. Ça dit quoi de la situation aujourd'hui dans votre pays? Ces interpellations des hommes masqués, non identifiés, qui se présentent chez les membres de la société civile, parfois chez des hommes politiques, et qui sont enlevés comme ça en pleine nuit. Ça dit quoi de votre pays aujourd'hui?
Ça dit toujours, c'est que l'objectif, c'est de faire taire à toutes les voix dissidentes, tous ceux qui veulent s'opposer au système. Ça veut dire que leur objectif, c'est de faire taire à tous ceux qui parlent au nom du peuple. Tous ceux qui veulent parler de retour de l'ordre constitutionnel, tous ceux qui vont parler de la fin de la transition seront toujours mis à terre. C'est l'objectif, effectivement. Ouais. Nous sommes très inquiets ici dans le pays. Tout le monde maintenant commence à avoir peur parce que ici, si ça continue comme ça, je pense que maintenant, les gens vont arrêter de s'opposer parce qu'ils
sont en train de... Ousmane, vous pointez du doigt d'une certaine façon les autorités. Vous disiez qu'il y a une volonté de faire taire tous ceux qui sont critiques, tous ceux qui osent parler un peu plus fort que les autres pour dénoncer le déroulement de la transition. Mamadou nous rejoint, il est également dans la capitale. Bonjour Mamadou.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Alors, vous disiez au Standard être également soulagé, que c'était une bonne nouvelle, mais vous y voyez surtout des bandits et pas forcément les autorités derrière l'enlèvement d'Abdoul Sakho.
Oui, Oran, c'est imprudent de dire, si vous voulez, d'indexer quelqu'un par rapport à cette arrestation qui a choqué tout le monde et avec surtout la brutalité qui a caractérisé cette arrestation. Mais pour le moment, c'est imprudent de dire... tel ou tel est derrière cette arrestation.
Oui, mais parler de bandits, c'est une version qui est contestée justement par des membres des forces vives de Guinée qui disent Abdoul Sakho n'est pas suffisamment riche pour qu'on s'en prenne à lui pour de l'argent.
Oui, c'est facile de pointer du doigt les autorités ou les bandits. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucune information officielle qui dit que c'est tel ou tel qui a arrêté Abdoul Sakho. Mais pour le moment, la bonne nouvelle, il a été retrouvé, même si on dit qu'il est dans un état critique. Donc on espère qu'il va retrouver sa santé et que la justice ou la police va continuer les enquêtes pour qu'on puisse situer les responsabilités. Mais pour le moment,
oui, c'est situer les responsabilités. Et Ousmane, qui est toujours en ligne, le rappelait tout à l'heure, ça fait quand même maintenant 2 mois qu'on n'a plus de nouvelles du journaliste Habib Marwan Camara. Plus de nouvelles également de l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Saadou Minaga. Ça fait 7 mois, et Ousmane en parlait, que Fonike Menge et Biloba ont disparu. Personne n'a de leurs nouvelles, pas même le gouvernement, puisque quand on interroge les officiels, le gouvernement, ils disent ne pas savoir où sont ces différentes personnalités. Vous restez en ligne, Mamadou. Ousmane est toujours avec nous. J'accueille Saliou. Hein. Je vous le disais, vous êtes nombreux à nous appeler après la libération d'Abdoul Sakho. Bonjour, Saliou.
Oui, bonjour, Anne Gomez, et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Nous vous écoutons sur Abdoul Sakho.
Bon, le cas d'Abdoul Sakho, vraiment, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en Guinée. Nous sommes très inquiets. La façon dont Abdoul Sakho a été enlevé sur lui et envoyé dans une destination inconnue. Vraiment, ce qui se passe en Guinée à l'air, la personne n'est à l'abri de cet enlèvement, de cette barbarie. Mm. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, tout le monde a peur. On se pose la question, qui sera la prochaine victime? Parce qu'on connaît le cas de Fonike Menge, le cas de Biloba, de David Marwan Camara. Mais moi, je pense que c'est à travers la pression des Américains, surtout l'ambassade de Guinée, l'ambassade des États-Unis en Guinée ici, parce qu'ils ont sorti un communiqué, oui, condamnant cet enlèvement et demandant la libération pure et simple de M. Abdoul Sakho.
Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de réactions de la part des ONG, des défenseurs des droits humains, des syndicats, mais aussi de l'ambassade des États-Unis en Guinée qui effectivement avait dénoncé l'arrestation de cette grande figure de la société civile guinéenne. Vous pensez que c'est le fait que l'ambassade américaine sur place ait communiqué, cela peut-être incité les ravisseurs à libérer Abdoul Sakho? Il y a eu pression.
Effectivement, vous savez, en Guinée, ici, quand les États-Unis parlent, tout le monde entend, hein, parce que, vous savez, avec l'administration Trump, il n'y a pas de pagaille. Donc, ouais, peut-être, bon, ils ont peur d'être sanctionnés ou d'être, vous avez vu.
Bon, en tout cas, c'est votre interprétation de ce communiqué de l'ambassade des États-Unis en Guinée. En tout cas, merci à tous les trois. Saliou, Mamadou, Ousmane. Je sais qu'Ousmane avait envie de reprendre la parole, mais bon, on est déjà quasiment à la moitié de cette libre antenne et d'autres auditeurs, évidemment, patientent au standard sur d'autres sujets. C'est la libre antenne. Il est 9h47 à Paris. Bonjour, Moussa.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Ça va, merci beaucoup. Vous êtes à Dakar. Moussa, vous profitez de la libre antenne pour revenir sur la publication d'un rapport qui fait polémique au Sénégal. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques sous l'ancien président Macky Sall. Non seulement la situation des finances publiques de votre pays est alarmante, mais le document révèle des détournements, des surfinancements, etc. etc. Dans quel état d'esprit êtes-vous alors?
Tous les Sénégalais généralement sont inquiets de la situation, vu que dès l'actuel gouvernement était au pouvoir, donc ils ont sorti quelques mois après pour communiquer sur la situation donc économique du pays, et tout le monde a peut-être pu entendre que la situation était alarmante, était délicate. Maintenant, vu qu'il y a une semaine, le rapport de la Cour des comptes confirme ces dires donc de ce gouvernement.
Oui, excusez-moi de vous couper la parole, Moussa. Le rapport va même plus loin, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que le déficit et la dette soient si importants. Le déficit représente quasiment 100% du PIB.
Du PIB, oui. Et c'est un peu ce qui inquiète même tous les Sénégalais, et qui se posent des questions même sur comment cette situation-là a pu arriver à ce niveau.
Ouais.
Et donc, tous les Sénégalais les regrettent. Et maintenant, comme tous les Sénégalais, nous attendons aussi que la lumière soit faite sur ces propos.
Ça veut dire quand vous dites que la lumière soit faite justement sur la gestion des finances durant les 4 dernières années du mandat de Macky Sall, il va falloir des procès, il va falloir que certaines personnalités, certains ministres rendent des comptes.
Bon, c'est ce qu'on va dire, mais vu que le rapport aussi n'a pas cité nommément des personnes et que même le ministre de la Justice, lors de son intervention de la dernière fois, il a aussi respecté la présomption d'innocence.
Bien sûr, c'est important, c'est important, et surtout venant d'un ministre de la Justice.
Voilà, maintenant dire que aussi tous les Sénégalais aussi attendent que peut-être le procureur ou même le pôle financier qui a été installé se saisisse pour montrer, faire la lumière sur cette situation, situer les responsabilités et s'il le faut, les punir.
Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à réagir. On a reçu pas mal de commentaires hein, concernant ce rapport explosif de la Cour des comptes au Sénégal. Vous aurez l'occasion très vite, évidemment, d'en reparler dans la Libre Antenne et dans cette émission. Merci beaucoup, Moussa. 33 9 693 693 70. Bonjour, Raphaël.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
À Libreville, vous êtes au Gabon, mais vous avez quand même suivi, et comme de nombreux sur le continent africain, la rétrocession hier par la France du camp militaire de Port-Boué aux forces armées ivoiriennes. Et vous, en tant que Gabonais, ça ne vous a pas laissé indifférent ?
Non, pas du tout, parce que tout comme la Côte d'Ivoire, le Gabon possède l'une des dernières bases. On possède actuellement la dernière base française sur le golfe de Guinée.
Oui.
Et donc cette rétrocession met en lumière plusieurs aspects de la coopération, sinon des accords signés entre l'Afrique et la France après les indépendances. Ces accords, c'est vrai que ça permettait à ce qu'il y ait une petite stabilité après les indépendances. Mais le problème, c'est que les temps ont évolué, les choses ont changé, le monde est devenu multipolaire, et donc certains accords doivent être revus.
Ouais. Malheureusement. Alors, Raphaël, c'est une chose de revoir les accords. Par exemple, avec la Côte d'Ivoire, les accords vont être revus, mais il n'y a pas rupture de la coopération militaire. Vous, en tant que Gabonais, vous souhaitez, si je comprends bien, une révision des accords de défense, mais êtes-vous pour un départ de la totalité des soldats français, ils sont 350, il me semble, en ce moment, dans votre pays, le Gabon, où vous vous dites, comme les Ivoiriens, la majorité part, quelques-uns restent pour continuer à former nos forces armées.
Mais la coopération doit être, je veux dire, que ce soit une coopération plus horizontale, c'est-à-dire une coopération gagnant-gagnant. C'est vrai qu'au niveau de la coopération militaire, ça passe, ça va, parce qu'il y a certaines avancées telles que l'installation au niveau de la base de Charles de Gaulle de l'école militaire d'administration. Mmh. Mais le problème n'est pas que cela. Il y a la France, les soldats français en eux possèdent pratiquement une grande concession foncière. Ce qui voudrait dire que s'il faudrait que la coopération aille simplement au niveau de l'aspect militaire, mais n'oublions pas l'aspect monétaire, parce que occuper tous ces espaces, sans pour autant qu'il y ait une contrepartie financière. Mmh. Je vois que le Gabon se fait également et voilà, il faudrait que l'aspect financier aussi soit rempli.
D'accord.
Moi, je me dis, comme la même chose qui s'est fait au niveau de Djibouti entre les bases américaines et françaises qui occupent le territoire, où ces bases reversent de l'argent à Djibouti, il faudrait également qu'au niveau du Gabon, vu qu'elle occupe un grand espace, il faudrait que la France également puisse reverser, vous voyez, reverser un peu de...
Un loyer, une sorte de loyer.
Voilà, une sorte de loyer. Sinon, vous verrez que si certaines choses ne se font pas, je vous le dis déjà, la même manière que les soldats français sont partis du Tchad après l'élection du président Déby, il se pourrait également qu'au niveau du Gabon, une fois que les choses reviennent dans l'ordre, on pourrait avoir un regard un peu plus différent par rapport à ce qu'on
a
actuellement.
En tout cas, vous souhaiteriez que ce dossier soit sur la table du nouveau président, une fois les élections passées. C'est ça, que le dossier, quoi, dans votre pays, le dossier soit évoqué.
Oui,
que l'avenir des forces françaises soit évoqué, examiné et qu'on adapte la situation au logiciel 2025, effectivement. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous interromps, je vous coupe un peu la parole, mais le temps passe très vite. Il nous reste 6 minutes et d'autres auditeurs nous interpellent également sur des sujets d'actualité. On va parler football. Les supporters du Congo Brazzaville, les supporters des Diables Rouges sont plus qu'en colère. Bonjour, Blanchard.
Bonjour Juan.
Bon, je ne sais pas si on peut dire colère ou finalement vous êtes dépité, puisque la Fédération internationale de football, la FIFA, a décidé de suspendre votre fédération de football.
Oui, mais au-delà de la colère des Diables Rouges ou du Congo tout entier, c'est une frustration de tous les Congolais de manière générale, en particulier les amateurs du football, parce qu'il s'agit d'une situation qui aurait été évité si au niveau de la FECOFOOT, qui est notre instance nationale, les choses allaient bien et si à l'interne, les différents gestionnaires de cette entité associative nationale s'entendaient.
Parce non, mais bien sûr, mais Blanchard, si tout allait bien au sein de la Fédération congolaise de football, votre fédération ne serait pas suspendue. Le problème, et vous le savez, Blanchard, c'est qu'il y a eu ingérence politique.
Ingérence politique, on entend tout le monde entend dire. Mais les actes concrets de cette ingérence, quand nous le prouvons, parce qu'ici à Brazzaville, on sait qu'il y a eu la crise au sein de la FECOFOOT, les dirigeants ont été suspendus par les présidents de clubs. Maintenant, alors, au vu de cette crise, il y a eu des démarches et autres, ils n'ont pas pu avoir une certaine conciliation. Et ça s'est complété, on parle de l'intervention du politique. Bon, les preuves ici à Brazzaville, on n'en a pas.
Bon, vous n'en avez pas, mais la FIFA, visiblement, elle les a, les preuves, puisqu'elle s'est rendue sur place à plusieurs reprises, et puis, bon, elle a constaté, et elle ne prend pas cette décision par hasard, ça ne tombe pas du ciel. En tout cas, c'est compliqué, effectivement, pour les Diables Rouges, puisque approchent à grands pas les matchs éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde de football, et visiblement, votre équipe nationale ne pourra pas y participer.
Non, l'équipe ne pourra pas y participer, c'est ça la grande frustration. Bon, encore que là, si ce que les autorités, notamment le ministre du Sport, a dit, peut se faire, que le compromis sera trouvé, forcément trouvé, alors ça pourra quand même arranger la situation. Mais si chacun des protagonistes campe dans sa posture actuelle, ça sera désolant, ça sera pratiquement dommage pour le pays qui va être absent, parce que c'est aussi, même si on peut perdre, c'est pas grave à un certain moment, mais il faut quand même être présent là où toute l'humanité est présente pour célébrer le sport, parce que la finalité, c'est être présent, c'est
bien
aussi
sûr
un espace diplomatique.
Bon, mais avant d'être présent à la prochaine Coupe du Monde de football, il faut déjà se qualifier, et effectivement, sur le calendrier, il y a deux matchs prévus, 21 mars contre la Tanzanie, 24 mars contre la Zambie, donc dans un mois, et d'ici là, votre fédération ne respecte pas les critères fixés par la FIFA, eh bien, il n'y aura pas de match éliminatoire pour les Diables Rouges. Blanchard, bon courage.
Merci, mais à ce stade, nous n'avons pratiquement pas d'espoir qu'on participe à ces éliminatoires.
Ouais, je le sais bien, j'en ai conscience moi aussi. Merci Blanchard, bonne journée à Brazzaville. Il nous reste à peine 3 minutes. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal, et vous nous interpellez sur cette affaire qui fait grand bruit dans votre pays, l'affaire dite des boulettes pour fesses.
Oui, c'est ça. Et moi, j'irai au-delà de ça, quoi. Moi, il y a un vaste marché noir qui s'organise en ce moment sur les réseaux sociaux, et notamment concernant les produits pharmaceutiques, et qui sont une menace sur la santé des populations et même sur la vie économique.
Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas les boulettes pour fesses, ce sont effectivement, ça peut faire rire évidemment, mais le sujet est vraiment grave, puisque ce sont des produits qui sont dangereux pour la santé, qui mettent en péril la santé publique. Ce sont des produits qui permettent de faire gonfler le volume des fesses. Et donc, il y a eu une affaire, puisqu'il y a une TikTokeuse qui a vanté ses produits sur ses réseaux. Elle en vendait donc sur les réseaux sociaux, elle en vendait également sur les marchés. Elle a été interpellée, il y a eu un procès qui a été médiatisé. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, et à une forte amende. Et vous vous dites quoi? Vous vous dites qu'il faut aller plus loin, que ça vous inspire quelle réflexion, cette condamnation?
Il faut aller plus loin, il faut être plus ferme, parce qu'on vend des produits beaucoup plus dangereux, des concoctions, des thés, des colliers qui prétendent guérir le glaucome, la cataracte ou bien le diabète. Ça, c'est plus grave.
Ouais.
C'est plus grave. Et moi, je suis étonné que les professions médico-pharmaceutiques restent impassibles devant ce phénomène qui est très grave, qui est dangereux.
Merci Alf. Oui, allez-y, une petite conclusion, parce que je suis obligé de rendre l'antenne, là.
Oui, mais je crois qu'il faut que le gouvernement intervienne, il faut que toutes ces professions interviennent pour qu'on mette fin à cette sorte de marché noir qui est nuisible à l'économie, nuisible aux populations, nuisible même à la société.
Merci Alpha, bonne journée et bonne fin de semaine. Merci à tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous avez porté à cette émission. On sera de retour évidemment lundi. Lundi, journée spéciale sur RFI. Cela fera 3 ans que les troupes russes envahissaient l'Ukraine, et pour l'occasion, nous allons prendre le temps de répondre à toutes vos questions question pour mieux comprendre le rapport de force sur le terrain, la façon dont les Ukrainiens vivent depuis 3 ans. Bref, toutes vos questions et on sera un plaisir de vous répondre évidemment en direct. Passez tous une excellente fin de semaine, prenez soin de vous et à lundi, 8h10, TU.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité. Banque Atlantique.